RMC, Intégral Tour, Christophe Sessieux.
Et la première étape du Tour de France qui se poursuit toujours sur les routes anglaises. Du soleil cet après-midi sur le Yorkshire. Énormément de monde sur les bords des routes pour encourager les 198 coureurs de cette édition 2014 du Tour de France. On va faire un nouveau point dans un instant. Auparavant, on reste en Angleterre mais on descend un peu plus vers le sud. Londres, la banlieue sud-ouest de Londres, Wimbledon très exactement, où se déroule la finale féminine, où se déroulait plus exactement Eric Salio, car c'est déjà terminé.
Ah ouais, c'est incroyable. Victoire de Petra Kvitova, 6-3, 6-0 en 55 minutes. Je suis en train de consulter les archives, mais je pense que c'est peut-être la finale la plus rapide de l'histoire de Wimbledon. Petra Kvitova qui a joué comme dans un rêve, Christophe. C'est incroyable. Elle a signé 28 coups gagnants, plus les autres coups que la pauvre Canadienne a touché avec beaucoup de difficultés. Non, c'était un cauchemar pour la pauvre Eugénie Bouchard qui disputait sa première finale au Grand Chelem. Je pense qu'elle s'en souviendra. Les organisateurs ont décidé de fermer le toit parce que la pluie menace, donc ils vont attendre que le toit se déroule pour procéder à la cérémonie de remise des coupes. Mais quel triomphe pour Kvitova, deuxième titre après 2011. Elle avait battu Maria Sharapova il y a 3 ans, et bien elle bat là celle qu'on appelle la nouvelle Sharapova, Eugénie Bouchard, qui s'en souviendra. 6-3, 6-0.
Ah oui, terrible, un mauvais souvenir pour Eugénie Bouchard. A priori, la finale masculine demain devrait durer un peu plus de temps quand même, hein. C'est une affiche de rêve entre Roger Federer et Novak Djokovic. Ce sera à quelle heure demain, Eric, la finale?
Même heure, 15h, 15h française.
Et on vivra ça évidemment sur RMC avec ce week-end quasiment entièrement british sur les ondes d'RMC. Merci Eric.
À bientôt.
Bonne fin d'après-midi. Et tu peux aller manger des fraises.
Non, il y a la finale du double dame, Christophe, avec Kiki Medovic.
Ah, exactement. On va pas,
sorry,
on va pas louper ça.
I'm Fred.
Allez, see you later. Bye. Allez, à plus tard. 66 km de l'arrivée. On revient ici dans le nord de l'Angleterre, le Yorkshire. Il n'y a pas de pluie pour l'instant. On croise les doigts évidemment. Mais pour l'instant, tout se maintient. On va faire tout de suite un point complet de la course. C'est le Top Course et c'est avec Fred.
RMC Top Course.
Avec 66 km à parcourir pour un seul homme, ils étaient trois tout à l'heure au kilomètre zéro à prendre la fuite. Deux Français, Hédé Jarier, mais aussi un Allemand, Jens Voigt. Et comme hier soir au Brésil, c'est l'Allemand qui a eu la peau des Français. Jens Voigt, le vétéran de ce 101e Tour de France, a pris les devants et est parti à la conquête du premier maillot à poids de ce Tour 2014. Il compte au dernier pointage à 66 km de l'arrivée, alors qu'il reste une côte de 3e catégorie à escalader. 2 minutes 40 d'avance sur un peloton où l'on aperçoit les coureurs de la FDJ.fr pour le champion de France, Arnaud Démare. Ça sent bon l'arrivée au sprint. Il y aura, a priori, ici à Harrogate, tout à l'heure, une explication royale entre Kittel, Cavendish, Sagan, Démare, Degenkolb, Greipel, j'en passe et les meilleurs.
Et pourquoi pas un petit Brian Coquart également, sur cette arrivée. Alors, Cyril Guimard, notre druide à nous, qui est toujours dans sa tribune. Cyril, tu as étudié le profil de l'arrivée de cette étape. Ça conviendrait, tu en parlais tout à l'heure, le mieux peut-être pour Peter Sagan, hein, puisque c'est une arrivée en faux plat, plus que faux plat, même montant. Hein.
Oui, on est entre le faux plat et une véritable côte, et c'est vrai que des coureurs de type Peter Sagan ne sont pas du tout désavantagés par rapport à une arrivée complètement plate sur des grands boulevards où là les Greipel, Kittel, Cavendish lui sont un petit peu supérieurs. Là en plus ça, le fait que ça monte, ça frotte aussi un petit peu moins, donc ça permet justement à ce type de coureurs comme les Coquart, on en parlait tout à l'heure, voir Arnaud Demare, qui aime bien aussi ses arrivées légèrement montantes. Ça va frotter un petit peu moins sur les 500 derniers mètres, sauf que les 5 derniers kilomètres sont eux en ligne droite et que ça frottera avant d'arriver sur ces 500 derniers mètres. Donc une arrivée qui reste quand même indécise et où, j'ai presque envie de dire, au fil des minutes, la cote Cavendish baisse un petit peu. Voilà.
Attention, ouais. Attention, information du peloton, il y a une cassure,
exact.
Probablement à cause tout à l'heure de l'ascension de la deuxième côte de la journée. La descente était très technique, il y a beaucoup de monde et ça commence à rouler vite à l'avant du peloton. Il y a des coureurs attardés et pas des moindres. 1 minute 15 derrière le gros peloton. On a des coureurs de renom comme Joaquin Rodriguez, 3e du Tour de France l'an passé. Il y a également Christophe Riblon, vainqueur à l'Alpe d'Huez. Christopher Horner, l'un des vétérans du peloton, l'ancien vainqueur de la Vuelta, mais aussi et surtout Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, le leader pour le classement général de la FDJ.fr, qui est piégé pour l'instant. On galère un peu à l'arrière du peloton. On navigue pour l'instant, en ce qui concerne ce groupe d'attardés, à 1 minute 15 du peloton. Attention, il reste 65 km pour cela. Il va falloir faire vite pour rentrer. Sinon, le général sera déjà compromis au soir de la première étape.
À signaler que la présence de Thibaut Pinot dans ce groupe est liée à un changement de vélo. Il a donc pu être dépanné. Il a seulement pu être dépanné derrière justement ce groupe de lâchés. Les directeurs sportifs n'avaient pas la possibilité de monter derrière le peloton principal, ce qui explique sa présence à l'arrière.
Lucho, c'est vrai que pour les gens qui visent le classement général, la première semaine du Tour de France est toujours une semaine redoutée, hein. C'est pas par les difficultés, par la montagne, mais justement se faire piéger dans des cassures comme ça et risquer de tout perdre, toute prétention pour une victoire finale. Évidemment, c'est très très inquiétant pour tous ces leaders.
Hein, c'est inquiétant, oui, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment être placé stratégiquement. Les premières étapes du Tour de France sont toujours compliquées pour les leaders du classement général, et notamment on le voit aujourd'hui, c'est des routes quand même qui sont relativement étroites avec énormément de public. Donc on l'a vu dans les ascensions précédentes, beaucoup de public, route étroite, donc beaucoup de cassures, d'arrêts aussi du peloton, carrément les coureurs ont mis pied à terre, et c'est vrai qu'il va falloir être très vigilant. En plus, on va arriver prochainement en France avec les secteurs pavés, plus de environ 9 secteurs pavés et pas des moindres. Donc ça va être quand même très très dangereux. Il suffit qu'il fasse un petit peu mauvais, un petit peu de pluie, et des coureurs comme Contador, même Froome, qui n'ont pas l'habitude des pavés, risquent peut-être des dégâts ce jour-là. Et puis après il y a les Vosges. Donc vous savez, la première semaine c'est concentré, hein, le départ en Angleterre avec beaucoup de pression stratégique aussi pour le peloton, et puis ensuite les zones pavées, les premières moyennes montagnes dans les Vosges. Donc il va falloir être très vigilant pour les équipes et surtout les équipes de leaders.
C'est vrai, Cyril, de toute façon, qu'on a quitté un peu ce schéma qui avait prévalu sur le Tour de France, sur les routes du Tour pendant plusieurs années, c'est-à-dire la première semaine était une semaine réservée aux sprinteurs. Désormais, les organisateurs du Tour, ceux qui façonnent justement cette course, essaient de mettre des difficultés dès la première semaine pour intéresser le grand public. Et là, ce sera le cas demain avec, on le disait tout à l'heure avec Fred, une étape quasiment de moyenne montagne, puis les pavés. Il y a de quoi avoir peur pour tous les leaders et de quoi se régaler pour tous les spectateurs et les auditeurs.
Eh bien, on va privilégier le fait que les spectateurs vont se régaler. Mais c'est vrai que il y a un phénomène qui modifie un petit peu le déroulement de ce Tour de France, enfin, ou des Tours de France, c'est le fait qu'on ne met pas de prologue. Parce que lorsque vous mettez un prologue le premier jour, vous avez une première hiérarchie, et ensuite la course va tourner autour de cette hiérarchie qui aura été faite sur le premier contre-la-montre. Et rappelez-vous, à chaque fois qu'il n'y a pas eu de prologue, on a eu une course animée dès le premier jour. Alors c'est vrai, les parcours s'y prêtent également. L'an dernier, on était en Corse, donc trouver du plat, ça n'a pas été évident, à part le premier jour sur le bord de mer. Mais c'est très bien comme ça, parce qu'il faut que la course, qu'elle vive tous les jours. Mais pour revenir à ce qui se passe actuellement sur la course, je suis quand même assez inquiet pour Thibaut Pinot, parce que l'écart continue de se creuser entre le groupe Pinot, qui a peu de soutien, il faut bien le dire, puisqu'on a pu remarquer que Rodriguez de la Katusha, qui est l'an dernier sur le podium du Tour de France, eh bien ne fait pas la course du tout. Il était en queue de peloton. En fait, il ne fait pas du tout le classement général. Il sort également de problèmes physiques, et donc il est plutôt là sur les premières étapes pour s'entraîner. Donc il ne rentrera pas, à mon avis, dans le jeu pour chasser derrière le gros peloton. Et il faudra sans doute que Marc Madiot prenne certaines décisions, peut-être de faire décrocher une grande partie de l'équipe et donc déceler Arnaud Demare en tête de peloton.
Pour l'instant, aucun équipier avec Thibaut Pinot.
Il y a Cédric Pinot.
Ah, Cédric Pinot, qui est son homonyme ou presque.
Voilà.
Cédric Pinot, peut-être effectivement, Cyril, que l'arrivée de Cédric Pinot en appelle d'autres. C'est vrai qu'il y a un choix cornélien à faire là, privilégier le classement général dès cette première étape, ou la victoire potentielle, mais mais très hypothétique.
Voilà, c'est Pinot lui-même qui est actuellement dans le classement de la montagne, essaye de combler l'écart, mais il est relativement
encore,
seul.
Et devant dans le peloton, la dernière côte de la journée est très étroite, il y a un rétrécissement. Et comme dans les deux premières difficultés de la journée, certains coureurs, les derniers du peloton, sont obligés de mettre pied à terre. Ça ralentit la progression du peloton, ça ralentit la progression de l'arrière du peloton, pas de l'avant du peloton.
Et oui.
Si Thibaut Pinot peut rentrer sur l'arrière, c'est presque parti gagné, à moins que le final soit très rapide et la descente très technique. Pour l'instant, Thibaut Pinot a son destin entre les mains.
Et toujours une 20.
Entre ses mains, puisque c'est vrai que c'est lui qui fait cette dernière ascension du jour en tête, et il s'emploie. Il n'a aucun problème physique apparemment. Effectivement, tout est arrivé sur un changement de vélo. Thibaut Pinot, qui dès la première étape est obligé de se mettre à la planche.
Attention à cette étape piège donc pour Thibaut Pinot. On le rappelle, le leader de la formation FDJ.fr, retardé à l'arrière du peloton suite à un changement de vélo. On va suivre évidemment la progression de Thibaut Pinot. Des routes très étroites avec énormément de monde. Tiens, on a retrouvé Dédé comme tous les jours. Il est là. Sur la route anglaise.
On the road again.
Avec le Big Léon qui a changé de nom, le gros Léon qui s'appelle le Big Léon. Ça va, André? Comment ça se passe?
Ça va très bien. Ravi de retrouver tout le monde, c'est parfait. Et en effet, Big Léon, gros Léon est devenu Big Léon pour ces quelques jours en Angleterre. Et il a en effet failli racler un petit peu les murets à droite et à gauche à certains endroits parce que c'était assez étroit.
Ah oui, c'est très très étroit, les routes anglaises.
Il a pris du vent.
Le gros Léon, tu parles pas de Dédé, oui. Tu parles du gros Léon. Hein. Il est bien, Dédé.
Moi, je suis affûté comme toujours.
Ouais.
Ouais, bien sûr.
Oh, André, le final de cette première étape, ça sera toujours aussi étroit jusqu'à l'arrivée comme ça, là?
Non, pas du tout. Ça s'élargit en fait après la descente de la côte de Grinton Moor. Le début de la descente reste assez étroit, technique, avec des virages serrés, des petits ponts aussi qui sont à la fois étroits et un peu ça monte, ça descend, donc ça continue un peu le même relief et le même type de route qu'on a trouvé sur les côtes précédentes. En revanche, quelques kilomètres après, là je suis à 30 km de l'arrivée, je suis à West Stanfield, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus plat. La route est beaucoup plus roulante et on n'est du tout sur les mêmes paysages et les mêmes reliefs, appelons-les comme ça, que l'on a eu en début de course. Hein. C'est plus du tout la même.
D'accord. André, juste un petit mot sur le nombre de spectateurs. C'est du jamais vu, en tous les cas, dans les premières étapes du Tour. Hein. On n'a jamais vu ça. On se croirait dans des étapes de montagne dans les Alpes ou les Pyrénées.
C'est énorme.
Exactement. Moi, quand je regardais ça tout à l'heure en passant sur la deuxième côte, celle de Buttertops, ça ressemblait étrangement à des paysages des Pyrénées. À certains endroits on se croirait sur les sommets pyrénéens, en dehors évidemment de la longueur de la pente et de son pourcentage, et c'est vrai qu'il y a énormément de monde du début à la fin de cette étape. Moi j'ai été surpris non seulement par le monde qu'il y avait et surtout leur discipline, des gens extrêmement disciplinés qui font pas n'importe quoi devant les coureurs. Ça c'est plutôt sympa.
Ah oui, ça nous change, ça nous change des pays latins ou de tous ces idiots qui courent derrière les coureurs et qui notamment, je crois que dans le dernier Tour d'Italie, ont causé des dégâts. Merci monsieur Dédé, hein, bonne route avec le gros Léon et attention à la ligne, hein, le gros Léon, il faut pas qu'il frotte les spectateurs anglais. Merci André, qu'on retrouve tous les jours évidemment de l'Assemblée des départements de France et des départements anglais, des comtés anglais plus exactement, sur ces trois premiers jours de Tour de France. 61 km 500, on va faire un nouveau point. Fred, c'est le top course.
RMC Top Course.
Avec toujours un seul homme en tête, il s'agit du vétéran allemand Jens Voigt de l'équipe Trek qui compte au dernier pointage 1 minute 10 d'avance sur un peloton qui a bien du mal à progresser dans la dernière difficulté du jour. Beaucoup de coureurs mettent pied à terre, la faute à des routes étroites, mais surtout la faute à une foule immense, 61 km de l'arrivée. Et vraiment, ça sent le sprint pour l'arrivée ici de cette première étape à Harrogate, puisque le peloton tient. Le lapin Voigt à portée de fusil, 1 minute d'avance, dernier pointage.
Ok, il est...
Thibaut Pinot est rentré, hein, semble-t-il.
A priori, oui.
Le groupe Thibaut Pinot est rentré sur l'arrière du peloton. Belle petite galère et petite frayeur à confirmer tout de même.
Petite alerte donc pour Thibaut Pinot. A priori, ça a l'air d'aller mieux pour le leader de la FDJ.fr. Il est 16h23 sur RMC. On se retrouve dans quelques instants pour les 60 derniers kilomètres de cette première étape du Tour de France. A tout de suite.
RMC Intégral Tour avec le Parisien et Aujourd'hui en France. RMC Intégral Tour, Christophe Sessieux.
Tour de France 2014, 190 km au programme des coureurs, des 198 coureurs de ce Tour de France sur les routes anglaises aujourd'hui, entre Leeds et Harrogate dans le Yorkshire, sur des routes très étroites, très piégeuses, qui ont déjà occasionné quelques petites frayeurs à certains. On va faire un point avec Fred, le top course, et ensuite on va revenir sur l'engouement extraordinaire que suscite le Tour de France ici en Angleterre. Mais tout d'abord, c'est le top course. On va prendre des nouvelles avec Fred, notamment Thibaut Pinot qui était tout à l'heure retardé à l'arrière du peloton. Est-ce que ça va mieux, Fred?
RMC Top Course.
Peloton groupé avec plus personne devant, plus personne derrière. Jens Voigt, le fuyard, a été rattrapé à 60 km de l'arrivée très exactement. Mission accomplie pour le vétéran allemand puisqu'il endossera ce soir le premier maillot à pois du Tour 2014. Et mission accomplie et frayeur passée pour Thibaut Pinot qui tout à l'heure était relégué avec un groupe d'attardés à 1 minute 20. Les pentes du parc national du Yorkshire ont causé des frayeurs, mais à 58 km de l'arrivée ici à Harrogate, le peloton est à nouveau groupé et il n'y a plus aucune difficulté répertoriée, simplement du vent qui souffle ici en Angleterre. Attention aux bordures et attention aux équipes de sprinteurs qui vont emmener le peloton à un train un peu fou. Il reste des coureurs attardés à l'arrière du peloton. C'est vrai qu'on a vu des routes très étroites avec des coureurs qui mettaient petit à terre. Tout devrait rentrer dans l'ordre dans les hectomètres à venir.
On l'espère évidemment. On a beaucoup de retard aujourd'hui sur les routes du Tour. On a un petit peu lambiné. L'arrivée, ce sera probablement aux alentours de 17h45. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne raterez rien de la Coupe du Monde et de ce quart de finale qui opposera tout à l'heure l'Argentine et la Belgique. Coup d'envoi 18h. En tous les cas, ce qui nous marque ici à l'occasion de cette première étape, de ces trois étapes anglaises, c'est évidemment l'engouement suscité par la venue du Tour de France pour la première fois de son histoire dans ce comté anglais du Yorkshire. Tiens, on a rencontré, Olivier Schwartz a rencontré Christian Prudhomme, le patron du Tour, qui nous parle de cet extraordinaire engouement anglais.
Il y a des vélos peints en jaune partout. J'en ai même vu un qui était planté dans une grue à 20 mètres du sol. Il y a des drapeaux français partout. Il y a des fanions aux couleurs des maillots du Tour de France partout. Il y a même des moutons qui sont peints aux couleurs des maillots du Tour de France. Il y a une envie du Tour, il y a une envie, une fierté de recevoir le Tour de France qui est absolument exceptionnelle. Ça veut dire qu'il y a une ambiance incroyable. Partout où nous passons, on nous dit merci. Et l'accueil est vraiment sensationnel. Et puis, il y a un terrain pour avoir un sprint formidable le premier jour et puis une vraie bagarre, déjà avec des leaders du classement général, le deuxième jour. Ben, vous savez, ce qu'on va chercher, c'est la passion. Je crois que là, on ne s'est pas vraiment trompé parce que la passion, elle est là. Je leur dis souvent, vous savez, vous êtes des Belges qui parlez anglais, tant vous aimez le vélo, même si c'est récent. Mais les racines du cyclisme sur route, elles sont ici. Le premier Britannique vainqueur d'une étape du Tour de France, c'était Brian Robinson à la fin des années 50. Donc les racines sont là. Quand on ne part pas de France, on va chercher la passion. Et là, très clairement, on l'a. Mais même, ça dépasse nos espérances. Nos rêves les plus fous, c'est encore mieux.
Voilà, tous nos rêves les plus fous, et ben c'est encore mieux, nous dit Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, sur l'engouement extraordinaire suscité par la venue du Tour de France. Fred, c'est pas la première fois, on le rappelle, que le Tour vient en Grande-Bretagne, mais on a l'impression que depuis quelques années, quand même, cette passion anglaise pour le peloton, pour le cyclisme, c'est encore plus développé, c'est incroyable.
Oui, il y avait eu un passage du Tour en 94, Chris Boardman était dans le peloton à l'époque, il y a eu bien sûr le grand départ en 2007, Christian Prudhomme, et les patrons d'ASO n'avaient pas prévu de revenir de si tôt, laisser encore passer quelques années, mais le développement du cyclisme en Angleterre avec la réussite de l'équipe britannique sur la piste aux Jeux Olympiques, que ce soit à Pékin ou à Londres évidemment, les victoires de Bradley Wiggins et de Christopher Froome ont poussé Amaury Sport Organisation à revenir un peu plus tôt que prévu en Angleterre, et ils ont eu bien raison. C'est vrai que les fondations historiques sont peut-être un petit peu moins fortes, un petit peu moins solides que dans la vieille Europe. Le cyclisme,
que sur le continent, oui.
Le cyclisme est à la mode, c'est sûr, en Angleterre. Certains journalistes britanniques accepte, évidemment il y a beaucoup de boulot, accepte le fait que le cyclisme soit populaire, mais j'ai entendu ces derniers jours du côté de Leeds qu'attention, s'il y a un pet comme disent les coureurs, s'il y a un coup dur, pourquoi pas avec l'équipe Sky ou autre chose en matière d'éthique, tout pourrait s'écrouler beaucoup plus vite qu'en France, en Italie ou en Espagne. On a vu ce que ça a donné en Allemagne, avec de multiples scandales chez Télécom, chez Gerold Steiner et d'autres. Donc oui, l'engouement est extraordinaire, il est à son apogée et c'est devenu un mode de vie, le cyclisme. Mais attention à préserver tout cela. A priori, on est sur la bonne voie, mais on est assurément aujourd'hui dans un pays de vélo.
Alors qu'en pensent les coureurs français, les coureurs de la vieille Europe? Thomas Vauclair, le plus populaire des coureurs français, eh bien trouve que c'est tout ça est simplement génial de voir autant d'engouement, autant de passion des Anglais pour le cyclisme. On écoute Thomas Vauclair.
Sincèrement, moi qui suis très attaché pourtant à la France, il faut être franc, moi j'ai connu le départ de Londres en 2007 et c'était vraiment un grand départ magnifique. En plus que Cavendish n'avait pas encore la carrière qu'il a jusqu'à présent et le nombre de victoires dans le Tour de France et les champions du monde. Ce succès populaire sera amplement mérité pour les coureurs britanniques avec ce qu'ils ont fait sur le Tour de France ces dernières années. Je serais pas vexé, une fois n'est pas coutume de ne pas être le plus encouragé sur le bord des routes. Mais je le conçois tout à fait, il faudra surtout être vigilant parce que c'est des étapes très piégeuses quand on est dans des endroits où le public n'a pas forcément l'habitude de voir passer le Tour de France. C'est là qu'il peut y avoir encore plus de pièges au niveau des chutes.
Voilà, des pièges dont nous parle Thomas Vauclair. Effectivement, certains tout à l'heure se sont fait piéger, c'est le cas de Thibaut Pinot. Fred nous a annoncé tout à l'heure qu'il était revenu. Est-ce qu'on a, on a vraiment la confirmation?
Oui, Thibaut Pinot est rentré. Il y a encore des coureurs attardés parce que Pinot est rentré sur un grand coup d'accélérateur dans la dernière difficulté de la journée. Il a joué sur ses qualités de grimpeur. Ceux qui avaient moins la giclette dans cette côte de troisième catégorie sont restés à quelques longueurs et sont encore en train de galérer derrière. On aperçoit Cédric Pinot, le coéquipier de Thibaut au sein de la FDJ.fr. Blaise Cadry est là, le coureur d'AG2R La Mondiale. On a vu Chris Horner, l'ancien vainqueur de la Vuelta, également le champion du Canada Sven Tuft. Tous ces gars-là chassent à l'arrière du peloton. Mathieu Ladagnous est également relégué à l'arrière à 42 secondes, dernier pointage. On est à 52 km de l'arrivée, peloton toujours groupé.
Ah, on va retrouver Pierre-Yves Leroux qui avait réalisé l'interview de Thomas Vauclair hier. Pierre-Yves qui est toujours sur la ligne d'arrivée. On entend des cris de supporters. On se croirait dans un stade de foot, Pierre-Yves. On se croirait à Rennes au stade de la route de l'Orient. Incroyable.
C'est plus la Beaujoire.
Ah, c'est plus.
Il y a 5-6 rangées de personnes derrière les balustrades, tellement il y a de monde. Et c'est la caravane là qui est en train de faire son entrée sur la ligne d'arrivée, donc c'est pour ça que ça s'agite encore petit peu plus. Je suis allé jusqu'au bus, notamment celui de la FDJ, pour voir si on pouvait avoir quelques informations. Et juste à ce moment-là, Christophe, il y a la voiture de Marc Madiot qui arrivait. Et on a des vilaines habitudes, hein, quand on croise quelqu'un, on dit de façon un petit peu automatique ça va, et Marc m'a dit non. Évidemment, il avait l'information sur le fait que Thibaut était décroché, mais tout de suite, puisque c'était au moment où on l'annonçait, ça allait un petit peu mieux puisque Thibaut était rentré dans le peloton. En revanche, il y avait une interrogation du côté de Marc Madiot, c'est qu'est-ce qui s'est passé à ce changement de vélo. Donc je ne sais pas si vous, de votre côté, vous en savez plus, mais c'était l'interrogation du côté de la FDJ.fr.
On n'a pas de... Non, c'est juste un changement de vélo.
C'était un peu le chantier à l'arrière du peloton. Beaucoup de coureurs attardés, donc des voitures qui sont barrées dans cette deuxième difficulté de la journée, avec beaucoup de monde et une progression qui est complètement ralentie, paralysée même. Du coup, n'importe quel incident mécanique pour n'importe quel coureur était très handicapant. C'est ce qu'a connu Thibaut Pinot. Heureusement, plus de peur que de mal et pas de casse pour l'instant.
Très bien. Cyril Guimard et Luc Leblanc sont avec nous. Évidemment, ils suivent la course avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt. Cyril, la situation s'est décantée. Hein. Maintenant, on est à 50 km de l'arrivée et il n'y a plus d'échappée. Et a priori, derrière, il n'y a plus de gros leaders bloqués à l'arrière de la course. Donc, a priori, maintenant, on se dirige vers un sprint. Hein. Il ne devrait pas y avoir d'échappée dans cette étape. Hein.
Plus d'échappée peut-être par l'avant, mais la course reste quand même très nerveuse sur des routes très difficiles et je crains demain l'étape qui sera beaucoup plus difficile que celle d'aujourd'hui, parce que celle d'aujourd'hui avait quand même la réputation d'être plate. Or pour l'instant on ne voit pas un mètre de plat et puis des descentes, des virages sans arrêt, et donc il risque d'y avoir, comme il y a eu tout à l'heure, eh bien de nouvelles cassures, soit liées par les difficultés du parcours, soit liées tout simplement par des ralentissement, des accrochages, ce qui a été le cas déjà depuis le début de l'étape. Et je ne suis pas certain quand même que le peloton arrive dans sa confort, dans sa composition maximale du départ. Vraisemblablement peut-être 70-80, peut-être 100-110 coureurs, mais je ne suis pas sûr qu'on ait tout le monde à l'arrivée ce soir.
Parce que là, forcément, 50 km de l'arrivée, ça va accélérer petit à petit les équipes de...
Ça n'a pas encore roulé. Ouais. Ça n'a pas encore
ça
roulé.
Ça va le faire, sans doute.
Mais quand ça va embrayer dans le final pour éviter justement les échappées avec tous les équipiers qui vont se s'aborder pour leur sprinter, je peux vous dire que en 150e position, ça sera la galère.
Eh oui. Lucho, toi qui as connu le Tour de France évidemment, qui était un grimpeur, qui évidemment craignait ses premières étapes sur le plat et les sprinteurs qui veulent à tout prix décrocher les premiers bouquets dès les premiers jours, comment on se place dans le peloton pour essayer d'éviter le moindre incident, la moindre chute? Est-ce qu'il y a une bonne position, une position
idéale? Il y a une bonne position, c'est simple, il faut rester dans les 20-30 premiers. Pour éviter les chutes, les cassures, on le voit aujourd'hui, il y a eu beaucoup de cassures, pas énormément de chutes, c'est des cassures dues aux ascensions qui étaient très étroites avec le public qui était nombreux, mais bon, il faut savoir se placer, et c'est vrai que c'est toujours un stress pour des coureurs comme moi qui, bon, j'étais pas habitué à frotter, hein, pour les arrivées au sprint comme celle d'aujourd'hui et tout, il faut absolument se maintenir dans les 30 premiers, voire 40 maximum, mais après, en dessous, c'est toujours une difficulté, la difficulté de prendre une chute, la difficulté de prendre une bordure, une cassure, donc il fallait faire très très attention. C'était la hantise des coureurs un petit peu comme moi qui n'avions pas l'habitude de frotter aux avant du peloton. Tout simplement. Donc voilà, il fallait être vigilant. Mais ceci dit, quand on a la condition aussi, quand on a la condition physique, quand on part sur le tour pour faire un très bon classement général et qu'on l'aborde dans de très bonnes conditions, avec une très bonne condition physique, on a quand même plus de facilité pour frotter et rester aux avant-postes.
Alors frotter, pour le commun des mortels, on ne sait pas trop ce que ça signifie. Je ne sais pas si vous avez vu ces images de caméras embarquées sur le dernier Tour de Suisse. On en parlait avec Cyril sur l'antenne il y a 15 jours. Images embarquées avec une GoPro fixée sur le cadre d'un vélo d'un coéquipier de sprinter, hein, Fred. Et des images incroyables. On était vraiment au cœur du peloton et on voyait vraiment ce que c'est qu'une préparation de sprint et le sprint en lui-même. C'est véritablement impressionnant.
Incroyable pour ceux qui ne connaissent le vélo que d'un œil extérieur. C'est le cas de beaucoup de gens. Si vous ne les avez pas vus, vous allez sur internet, vous tapez Degenkolb, Tour de Suisse, caméra embarquée. Ça va arriver très vite sur vos moteurs de recherche. Et c'est vrai que le spectacle est saisissant. C'est ainsi que cela se passe, avec beaucoup de cris, beaucoup de frottements. On ne joue pas simplement des épaules, on tend les bras, on met les mains. Pas seulement pour écarter ou pour éjecter un concurrent, mais aussi pour se protéger. Je m'adresse à l'ancien sprinter qui est Cyril Guimard. Cyril, ce n'est pas une façon de courir de 2014, du troisième millénaire. Ça s'est toujours passé comme ça dans un peloton. Quand on parle de frotter, c'est une vraie bagarre. Il y a une vie dans le peloton. Bien sûr, ces images peuvent être effrayantes d'un œil profane, mais chacun est habitué à ces us et et coutume du peloton, on est d'accord.
À noter que les images, vous pouvez les retrouver sur le site rmcsport.fr.
Très bien.
Donc, c'est pas la peine d'aller
à la pointe. À la pointe. Où.
On est à la maison. Bah, Cyril, la réponse à la question de Fred.
Oui, ça a frotté pour l'amener jusque-là. Oui, non, c'est vrai que, vous savez, lorsqu'on regarde la télévision, tout est un petit peu aseptisé. Ça semble bien se passer. Il y a une caméra qui est devant le peloton, une autre sur l'hélicoptère, et on a l'impression d'avoir, eh bien, 200 petits bonhommes là qui s'entendent bien, qui se font des politesses, qui se font, qui se disent je t'aime. C'est pas du tout ça la vie dans un peloton. Hein. Alors je suis toujours surpris d'ailleurs au niveau des commentaires quand on parle des coureurs qui sont gentils, que c'est bon, ils sont gentils, ils descendent du vélo. Mais quand on arrive à 10 km de l'arrivée, il n'y a plus de gentils. Ou alors les gentils, vous les retrouvez dans les 15 dernières positions. Mais vous ne pouvez pas rester dans les 30 premiers du peloton où vous emmenez vos sprinters, où on essaye de mettre à l'abri, et Lucho en parlait tout à l'heure, on essaye de mettre à l'abri les leaders pour rester dans la première partie du peloton. On reste pas dans la première partie du peloton parce qu'on s'appelle Pierre ou Paul. On y reste parce qu'on donne les coups d'épaule. On y reste parce qu'on fait, on va essayer d'impressionner l'adversaire qui va vouloir prendre votre place. C'est pas possible de rester dans les 30 premiers si on n'a pas le couteau entre les dents. C'est pas la petite cour de récréation où on joue aux billes, c'est pas vrai. Ce reportage qui a été fait donc avec ces caméras embarquées, eh bien, ça redonne une vraie dimension à la vie dans le peloton, la vie réelle. Et là, je peux vous dire que moi, quand je les regarde, je trouve ça tout à fait logique, tout à fait normal. On sait que pratiquement 10 ou 15 fois, chaque coureur frôle la chute. Et donc il y a un stress, il y a une adrénaline absolument énorme, mais c'est ça qui fait que ça tombe pas trop non plus, parce que il y a cette adrénaline qui fait que vous avez une capacité de réaction qui est multipliée par 10.
Lucho, ils sont fous ces sprinteurs, vu de ton œil de grimpeur, d'ancien grimpeur au sein du peloton, en les voyant faire, tu te disais ces gars sont malades.
Mais ce sont des malades.
Ouais. Oh ben ça va, Lucho.
Non, enfin moi je les voyais de loin quoi. Hein. Je les regardais faire. Et notamment, bon,
il valait mieux Lucho parce qu'à mon avis, non, t'aurais fait un temps.
Il frotte en voiture. Lucho.
Ferme ta bouche, Cyril. De toute façon, il valait mieux. Hein. Et puis il valait mieux pour eux qu'ils soient pas à mes côtés en montagne. Déjà, de toute façon, au pied du premier col, ils étaient plus là.
Voilà
un petit coup de bracasse. Non mais tu te souviens de Frédéric Moncas quand on était chez Casto, Frédéric, quand il pouvait pas remonter comme il faut sur la route, il montait sur le trottoir et il remontait tout sur le trottoir. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant la vivacité, c'est énorme. Quoi. Il faut vraiment être fou dans sa tête pour pouvoir faire ce qu'ils sont en train de faire dans le final.
Lucho, j'ai quand même fait quelques sprints dans ma carrière. Arrêtez peut-être un peu trop tôt. Il faut savoir que on me disait après l'arrivée, Cyril, t'es complètement fêlé.
Mais oui. Oui.
Et moi, je répondais, mais je n'ai jamais pris de risque.
Oui. Mais on te le dit toujours.
Oui, mais vous le sentez
merci
pas, le
Fred,
risque.
Merci Fred, on se retrouvera ce soir.
Vous ne sentez pas le risque. Vous ne sentez
non,
pas
mais,
le risque.
D'abord, si on a peur, on freine. Si on freine, c'est fini.
Ouais.
Bon, mais pour moi, je n'ai jamais pris de risque dans un sprint. Et pour la petite histoire, je ne suis jamais tombé dans un sprint.
Mais bon, quand les sprinteurs jouent ensemble, tout se passe bien.
Tout se passe bien, c'est quand. Mais vous ne pouvez pas faire un sprint si vous avez peur. Parce que la peur crispe, et quand vous êtes crispé, c'est l'ensemble de vos réflexes qui est dont la vitesse est diminuée. Donc il faut être à l'attaque. Quand on vient à côté de vous ne laissez pas la place. Et même si j'étais plus petit que des sprinteurs de 80 kilos, il n'y en a jamais un qui m'a pris la place parce qu'il savait que c'était pas possible. Mais c'est la même chose avec un Boigny, par exemple. Boigny, il a pas peur dans un sprint, même s'il va aller par terre. Mais c'est ses coureurs qui arrivent à être placés dans les 300 derniers mètres. Mais il ne faut pas avoir peur. Et moi, je n'ai jamais pris de risque dans un sprint.
Tout est question de caste. C'est comme dans les soirées transformistes de Lucho. Entre eux, ça se passe très bien. Il faut juste être du cru.
Qu'est-ce que c'est?
Tiens, juste un petit mot pour vous dire que les images embarquées du Tour de Suisse ont a priori fait des émules, puisque dans le Tour de France, chaque jour, 4 coureurs de 2 équipes différentes seront équipés d'un matériel vidéo ultra léger qu'ils déclencheront à l'abord des séquences clés de l'étape. Et tous les deux jours, les images seront prises en main par une équipe de monteurs pour la livraison d'un clip. Donc on aura l'occasion, Cyril, de voir ces images. Et c'est vrai que ça peut donner une dimension nouvelle aux images de télévision du Tour de France.
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. d'accord avec vous, mon cher Christophe.
J'espère bien, pour une fois. C'est bien la première étape. C'est pour ça, je pense que d'ici le 27 juillet, l'arrivée.
Alors, vous savez, je regardais le peloton et je viens de m'apercevoir qu'il y a un coureur qui est lâché.
Ah.
Et c'est le Dossard 107. C'est un Chinois de l'équipe Giant qui a provoqué la colère de Marcel Kittel et de John Duggan Kolb.
Et de Warren Barguil. Évincé de la sélection.
Parce que ce coureur, visiblement, n'a pas le niveau. Et qu'on ne leur a pas posé la question de savoir s'ils étaient d'accord sur la sélection de l'équipe.
Mais les télévisions chinoises et tous les sponsors chinois voulaient de ce garçon. Ça fait partie du commerce.
Oui, non, mais je suis d'accord. Mais le Tour de France, c'est pas non plus le cirque.
Je sais bien.
Il aura fait 2-3 jours, Cyril.
On parlait tout à l'heure de ce qui se passe dans les derniers kilomètres de Duggan Kolb et Kittel. Ils ont besoin de tous leurs équipiers pour aller dans la bagarre.
Cyril, il faut couper.
On va revenir sur ce débat dans quelques instants, Cyril, si tu le veux bien. Mais effectivement, 16h46, on doit faire un tout petit arrêt pipi. Hein. On va prendre une petite gourde et puis remonter à l'avant du peloton. On se retrouve dans un instant.
Peloton groupé à 42 km de l'arrivée.
Et ben voilà, le sprint, ça s'annonce. À tout de suite.
RMC Intégral Tour avec le Parisien et aujourd'hui en France, Christophe Cessieux.
Et oui, la pop Britpop ici sur les routes du Tour de France qui se déplace en Angleterre pour le deuxième grand départ dans l'histoire du Tour ici sur les routes anglaises. Leeds Harrogate, c'est donc le parcours de cette première étape. 190 km au programme des coureurs et à 40 km de l'arrivée. Ben pour l'instant, c'est un peloton groupé qui se dirige vers l'arrivée à Harrogate. On essaiera tout à l'heure de retrouver la moto RMC. Toujours avec Georges Quirino et Marc Comte. Cyril, 40 km de l'arrivée et le peloton qui prend son temps. Hein. Ça n'accélère pas trop encore. D'ici combien de temps, à ton avis ?
Bien, on a une petite période de calme, ce qui d'ailleurs a bien arrangé les coureurs qui se sont trouvés en difficulté pour diverses raisons. Mais lorsqu'on regarde la façon dont la tête de peloton se compose, on s'aperçoit que d'un côté, vous avez les Orica Greenedge, vous avez l'équipe Omega de Cavendish, vous avez les Team Cof là, mais là c'est pour mettre à l'abri leur leader Contador, et puis vous avez toute l'armada Lotto pour mettre en place bien sûr et préparer le sprint de Greipel. C'est-à-dire que là vous avez les équipes, ça y est, qui ont commencé à se mettre en formation pour emmener le sprint. On est encore à 40 km de l'arrivée, et donc à 40 km de l'arrivée, c'est vrai, il y a un petit temps de pause, voilà, ils se sont pas arrêtés boire un verre. Mais pour l'instant, on souffle avant la grande bagarre finale.
Et oui.
Oui, on est positionné, mais on discute entre équipes concurrentes. Ce n'est pas encore la chasse et la préparation aiguë du sprint. Pour l'instant, on est en train effectivement de se positionner. Les routes sont étroites. Je pense que la plupart des équipes sont allées reconnaître l'arrivée de cette première étape, puisqu'Harrogate est à environ 20 km à vol d'oiseau de Leeds. Et certaines équipes étaient logées à Harrogate, donc tout le monde connaît la typologie de l'endroit. Et effectivement, à 39 km de l'arrivée maintenant, le peloton est groupé mais n'est pas du tout en file indienne. On est dans une phase de temporisation. C'est le cas également sur la ligne d'arrivée avec la présence de la famille royale.
Et oui, ils sont tous là, ils sont venus. Enfin, il n'y a pas la reine, hein, mais autrement, il y a quasiment tout le monde.
Kate est là, le prince William, le prince Harry est également. Kate a le maillot vert, la robe verte. Si elle remet tout à l'heure le maillot jaune, ça nous fera joli petit assortiment.
Un joli camaïeu,
ça va être beau.
Elle est magnifique, Kate Middleton.
Le prince Harry a un succès. On aurait dit Pierre-Yves Leroux tout à l'heure sur la ligne d'arrivée.
Il a plus de cheveux que Pierre-Yves Leroux.
Il lève un doigt et on entend les groupies. C'est David Beckham en civil. Hein. Impressionnant.
Il est impressionnant.
Ça donne envie.
Ça donne envie d'être prince, oui. Ouais, mais c'est mal barré. Oui. Hein, c'est mal barré.
Quand il veut, oui. C'est magique.
Ouais, mais c'est une série qui se déguise souvent en plus. Ah,
il se balade.
Un déguisement bizarre.
Il se balade.
Et il y a même le Premier ministre, David Cameron, qui est là aujourd'hui. Donc tout le banc et l'arrière-banc.
Lui, il est rangé. Hein.
Ah, lui, lorsqu'il lève le doigt. Ouais. Ça donne quoi, David Cameron? C'est un peu comme Cyril Guimard.
J'ai pas vu.
Tout le monde applaudit. Très bien, je vous rappelle que vous pourrez suivre le quart de finale entre l'Argentine et la Belgique sitôt la ligne d'arrivée franchie, mais pour l'instant on a du retard, hein. On est encore à 38 km de l'arrivée et a priori l'arrivée ne se fera pas avant 17h45 voire 17h50. On va s'intéresser à Mark Cavendish évidemment, Fred, hein, qui est quand même le régional de l'étape ici pour cette étape. On va l'écouter dans quelques instants, notre ami Mark Cavendish, qui est un redoutable coureur et qui a vraiment misé sur cette étape, puisqu'on rappelle que sa maman habite juste à côté d'ici, à côté de la ligne d'arrivée. Hein.
Habitait au moins. C'est vrai qu'elle est originaire d'Harrogate. Ses grands-parents ont également une maison dans les environs et il venait lorsqu'il était enfant en vacances et il faisait du vélo. Rappelons qu'il n'est pas originaire de Lille, en tout cas il est anglais, il est originaire de l'île de Man, il n'est pas d'Angleterre à proprement parler. Du coup, effectivement, il prenait le bateau et il se rendait chez papy mamie passer des vacances à faire du vélo. Mark Cavendish, qui n'a pas vraiment besoin pour le compte, pour le chiffre, le score de cette victoire, il en a déjà 25 au compteur, mais ce dont il rêve, c'est d'endosser ce soir le premier maillot jaune de sa carrière. Mark Cavendish, 29 ans, qui a déjà effectivement 25 étapes du tour à son palmarès. Le bolide est prêt, il a été mis dans les meilleures conditions par son équipe, un peu mis dans la couveuse au chaud, à l'écart des grandes confrontations face à des Kittel ou des Greipel. Il est parfaitement en forme et ce qu'on en a vu avant-hier lors de sa conférence de presse, c'est qu'il est totalement dans sa première étape. Il a fait sa gueule de Cavendish, hein, sa tête de con comme disent certains dans le peloton, en répondant la même phrase à 10 reprises. Il ne cherche pas à s'évaporer, à se disperser. Ouais. Il sera l'homme à surveiller tout à l'heure sur la dernière ligne droite ici à Harrogate.
Alors il disait, on m'a posé la même question mais de différentes façons à 6 reprises pendant la conférence de presse. Ouais. J'ai répondu à la même question par les mêmes mots à 6 reprises.
Avec le sourire
Avec le sourire ou presque et les mâchoires serrées tout de même. Hein. On n'est pas Cavendish pour rien, c'est quand même le pitbull du peloton. Mark Cavendish, ravi en tous les cas d'arriver ici au pied de la maison de sa maman. Il est au micro de l'un de nos envoyés spéciaux.
C'est incroyable pour moi. Pour la deuxième fois de ma carrière, la Grande-Bretagne a le grand départ du Tour de France. C'est la course cycliste la plus prestigieuse du monde, débutée au Yorkshire en plus, avec la première étape qui arrive dans la ville natale de ma mère. C'est vraiment excitant. Je suis toujours attaché à Harrogate, où j'ai plein de souvenirs. Il y avait une maison, mes grands-parents y vivaient. Mon oncle y vit toujours. C'est vraiment beau de revenir de cette façon dans la ville où j'ai vécu quand j'étais enfant.
Voilà, le pitbull de l'île de Man interrogé par le pitbull colombien. Vous aurez reconnu la voix de Georges Quirino qui a même assuré la traduction. C'est pas Luc Leblanc qui aurait pu assurer la traduction.
Ah, hein, bah toi non plus.
Anglais,
hein.
C'est pas toi non plus.
Hein. Oh, bah écoute.
Si, il a appris un mot. Pound.
Pound.
Pound. Ça veut dire quoi, pound?
Pound, c'est des sous. Ouais, mais
c'est des sous, il sait pas la monnaie.
C'est la monnaie anglaise, oui.
C'est laquelle
livres, ça on appelle les livres sterling.
Oui, moi j'ai dit les lires sterling.
Les lires.
Lucho dans le texte.
En fait, il est en Italie.
Non, mais les Anglais sont pas comme tout le monde. Là, c'est la livre, nous c'est l'euro. On roule à droite chez nous, ils roulent à gauche. C'est pas les mêmes prises de courant.
Je voulais juste vous annoncer qu'il y a il y aura une nouvelle rubrique sur ce Tour de France qui va s'intituler la Lucho Mobile. Et alors vous allez avoir l'occasion, si vous êtes situé dans les 30 derniers kilomètres de l'étape, vous aurez l'occasion d'accueillir Luc Leblanc.
À condition
en
qu'il y ait du vin et puis du sandwich. Hein, sinon je m'arrête pas moi.
Voilà. Alors n'hésitez pas, mais on le fera évidemment dès qu'on ralliera le continent, parce qu'évidemment France, ici personne ne te connaît. Hein. Non, ici on pense que t'es le serveur du restaurant, mais dès qu'on va
franchir
la Manche de nouveau, tu vas retrouver ton
oui,
public. Donc n'hésitez pas, tous les jours, la voiture de Luc s'arrêtera.
Même sauter sur la voiture.
Si vous avez des sandwichs, si vous avez un coup à boire, il s'arrêtera pour discuter avec vous et vous serez en plus à l'antenne avec Luc.
À la seule condition
qu'il y ait
une banderole RMC.
Oui, des banderoles RMC. Et puis des banderoles encourageant évidemment Eros Rastafumeto. 16h57, vous êtes sur RMC, l'intégral tour se poursuit. Nous sommes encore à 35 km de l'arrivée. On prend son temps aujourd'hui sur les routes du tour. C'est parti très vite tout à l'heure, mais là ça ralentit un peu avant d'accélérer. Ne vous inquiétez pas sur la fin.
Peloton de groupé, cette évidemment.
Étape. Évidemment, tout le monde est groupé. À tout de suite, juste après les infos.
RMC, intégral tour avec le Parisien et aujourd'hui en France.